Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Immobilier avec Romain Pérez, le podcast dans lequel on parle de tous les sujets d'immobilier, principalement pour les agents immobiliers, étudiants en immobilier, on aborde l'actualité immobilière. Et dans cet épisode qui change un peu, on va parler investissement immobilier, comment investir, quel type d'appartement, les choses éventuellement à regarder ou à éviter. On parlera même peut-être un petit peu crypto, bourse, investissement alternatif, on verra si on a le temps pour échanger sur tout ça. Je suis très content d'accueillir Dimitri Laroutis avec moi. Vous le connaissez peut-être, il a quasiment 90 000 abonnés sur TikTok. Il est très présent sur ce réseau, il donne plein de conseils d'investissement et il répond à toutes les questions des abonnés. Merci à toi d'être venu sur le podcast.
Merci Romain.
Est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire ce que tu fais, qui tu es, ton métier, si tu vis pas forcément de l'immobilier?
Alors moi, je me présente généralement comme un salarié investisseur, hein, comme beaucoup d'abonnés. Ouais. Donc, je suis prof dans une école de commerce. Okay. Et à côté, bah, j'ai pas mal de passions, et notamment la passion de l'investissement immobilier. Alors l'objectif, hein, on en parlera, mais c'est surtout aussi la liberté financière que l'investissement immobilier permet. Mais ouais. Voilà, donc prof à l'ESC Amiens, et puis investisseur, business angels aussi, enfin voilà, plusieurs activités à côté.
Ok, et c'est prof de quelle matière en particulier, ouais, ou si on peut savoir?
Alors moi j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai fait de longues études. J'ai commencé par un doctorat en sciences éco, on va dire, en économie de l'environnement, et aujourd'hui je me suis complètement réorienté sur tout ce qui est web marketing. Ouais. Et aujourd'hui, bah, si vous tapez sur internet Dimitri Laroutis web marketing, vous allez voir que, alors il y a des vidéos, mais il y a aussi pas mal d'articles que j'écris avec des co-auteurs sur notamment le comportement d'achat des individus et des e-consommateurs. Donc voilà, ça c'est mes sujets de recherche. Et voilà, à l'école, à l'ESC Amiens, je suis plus sûr de l'enseignement en marketing.
Ok, génial. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Pourquoi tu nous as dit pour la liberté, pourquoi tu te lances dans l'immobilier à la base, ouais, au tout début, comment ça se passe?
Alors mon parcours, c'est un parcours qui est pas linéaire. Moi, à la base, je voulais... Alors vraiment, à l'origine, je voulais reprendre un supermarché. Donc, tu vois, okay, rien à voir.
Ouais, ouais.
Mais j'avais quand même cet esprit d'entreprise. Parce que quand on investit dans l'immobilier, pour moi, on a quand même un esprit d'entrepreneur.
Oui.
C'est-à-dire que quand on investit dans l'immobilier, on doit accepter les risques inhérents à cet investissement, à la gestion des locataires, aux problèmes éventuels. Et donc, on doit avoir cet esprit d'entreprise et accepter les problèmes liés à l'investissement. Pour faire simple, mon parcours, je fais de longues études jusqu'à 30 ans. Voilà.
D'accord.
30 ans, j'ai mon premier job, je m'achète ma résidence principale, ouais, et je m'intéresse à l'immobilier, mais j'ai toujours cette crainte, cette peur d'investir. Parce que quand on a 30 ans, premier job, investir 70 000 euros dans un appartement en investissement locatif, on se dit, derrière, il y a quand même... comment dire, beaucoup de contraintes et beaucoup de risques. Donc je regarde pendant un an, deux ans, trois ans, donc j'ai ma résidence principale, hein, je l'achète, oui, très très rapidement. Puis après, j'achète une place de parking, mais à titre personnel. J'achète des caves aussi à titre personnel, pas obligatoirement pour les louer, même si je crois que c'est mon meilleur investissement, hein, les caves.
Ah, oui.
J'avais acheté des caves 10 000 euros pour 200 euros de loyer par mois, donc ça c'était pas mal. Mais voilà, il n'y a pas encore cet esprit-là de vouloir multiplier les acquisitions. En 2013, je souhaite partir de mon école. Donc là, je suis enseignant-chercheur dans une école d'ingénieur. Je souhaite partir de mon école. Et puis, je souhaite créer une agence immobilière et j'achète des murs commerciaux. Ça se fait pas. Ça se fait pas, malheureusement. Il y a parfois des conjonctions, il y a des planètes qui s'alignent pas, mais voilà, ça se fait pas. Mais j'ai toujours les murs commerciaux puisque je les ai achetés. Donc ça, c'est vraiment le premier investissement, on va dire, locatif que je fais. De façon indirecte, hein, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Donc 2013, ouais, premier investissement locatif. Puis après, en 2015-2016, j'achète la maison où j'ai vécu. D'accord. Donc grosse maison. Donc je me dis, je peux pas l'acheter si j'ai pas des revenus locatifs derrière. Donc qu'est-ce que je fais, c'est que je loue des chambres à des étudiants.
D'accord.
Je garde tous les biens que j'ai à côté. Donc, j'avais mon ancienne résidence principale, un appartement. J'avais une place de parking, j'avais des caves, j'avais des murs commerciaux et puis j'avais les deux, trois chambres que je louais à des étudiants. Et je me suis rendu compte, donc ça c'était en 2016, je me suis rendu compte que, bah, au final, j'avais 20 000 euros de loyer qui arrivaient comme ça, sans trop le vouloir en fait. C'est tout simplement le chemin de la vie, c'est les occasions de la vie qu'on fait que, bah, voilà, j'ai 20 000 euros de loyer et ça se passe pas trop mal.
Ouais.
Donc là on est en 2016. Je fais des travaux dans ma maison, ok. Et à partir de 2017, je me dis banco, j'investis et j'essaye d'investir de façon plus importante. Et fin 2000, que je dise pas de bêtises, ouais, fin 2016, début 2017, pardon. J'achète 1, 2, 3 appartements en un an. La banque me suit. Ça c'est. Sans la banque, on peut pas faire grand-chose hein, dans l'immobilier.
Ouais, c'est clair, on en parlera.
Mais donc la banque me suit, ok. Donc là, 3 apparts. Donc c'était que je me rappelle, c'était alors premiers apparts et premières erreurs aussi que je fais. C'est-à-dire que j'achète en direct sur des appartements nus. Et donc là, au niveau fiscalité, même si on fait quelques travaux,
tu les loues en nu.
Ça fait mal. Au bout de 3-4 ans, ça commence à faire mal. Bon, c'est pas grave. Donc, j'achète un grand F2 pas sur Rouen et puis j'achète 2 studios et il y en a un que je transforme en petit F2. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, c'est 500 euros de loyer. Donc, là, ça me fait 1500. Donc, je passe déjà de 20 000 à 38 000 euros de loyer perçu en l'espace d'un an. Puis après, j'enchaîne. L'année d'après, attends que je te dise pas de bêtises.
Tout se passe bien avec ces studios, ouais. C'est que tu transformes en F2.
Pas de problème. En fait, moi, ma stratégie, c'est d'acheter, bien évidemment, en dessous du marché. Mais quand on achète en dessous du marché, derrière, il y a obligatoirement des facteurs qui expliquent le prix en dessous du marché. Donc soit donc j'avais acheté un appartement qui était en rez-de-chaussée, alors surélevé, 1m60, donc ça allait, mais c'était un appartement qui était pas obligatoirement super entretenu. Un autre, ça faisait 3-4 ans qu'il n'était pas habité. C'était globalement une vieille personne qui avait perdu son mari et qui vivait après chez ses parents, enfin chez ses pardon ses parents chez ses enfants pour vivre et pour subvenir à ses besoins. Et puis après un autre appart que j'ai acheté, c'était lequel? Là c'était une occasion, rien de particulier, mais il y avait pas mal de travaux. À chaque fois je refais l'intérieur, je refais
les
sols, je refais les sols, je refais les comment dire les peintures, je change l'électricité, je remets un peu aux normes, j'essaye de pas trop toucher à la cuisine. Alors si la cuisine je la rénove, mais j'essaye de pas trop toucher la salle de bain parce que ça c'est
ça chiffre vite.
C'est un poste très très lourd. Tout de suite on en a pour 5-6 000 euros, alors qu'une cuisine 1500, 2000, ça se fait quoi.
Surtout dans des studios où tu peux avoir juste un linéaire.
C'est ça. Donc globalement pas de problème par rapport à ça. Et après j'enchaîne l'année d'après, j'achète un appartement en fait, le F2 que j'avais acheté en nu entre guillemets, où ça a été une erreur fiscale on va dire d'acheter en direct. Je vois dans le PV d'Assemblée Générale que la loge de gardien est à vendre. Donc je visite la loge et je l'achète. Donc j'échange avec l'agent immobilier qui était chargé d'acheter l'appartement, enfin de vendre l'appartement, et je lui dis bon ben moi je suis investisseur, il est à 80 000 euros. C'était un F3 avec place de parking. Il est à 80 000 euros. Je sais qu'il était à 83, 84 avant. Ça a baissé, mais moi, en tant qu'investisseur, c'est pas possible. Et là, lui-même me dit, est-ce que à 65 000, ça peut le faire?
Ah oui, quand même.
Ben, je lui dis oui, 65 000, ça peut le faire. Et au final, il a fait la proposition au syndic de copropriété. Et puis, je l'ai eu à 65 000 euros. Alors, ça faisait 10 ans. Bien évidemment que le gardien n'était plus là. Donc il y avait des travaux, j'ai changé la chaudière, J'ai tout refait. Après, j'en ai eu pour 10 000 euros de travaux, mais tout neuf, quoi. Et aujourd'hui, c'est un appartement qui vaut dans les 120, 130 000 euros. Et ça, c'était en 2017-2018 que j'ai acheté ça.
Et tu prévoyais de le louer combien? Quand tu le visites, tu vois qu'il est à 83,
Ouais.
80 000 euros et lui te parle de 65. Toi, dans ta tête, tu pensais à combien c'est
Ah bah
rentable et
oui,
tu pensais le
parce
louer.
que l'important quand on achète, c'est de savoir combien on peut louer. Donc avant même de visiter, il faut avoir cette information-là. Sinon, on ne peut pas faire d'offre rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je visite un bien, je sais si je vais faire une offre et à quel prix, pour voir si c'est rentable. Donc là, je savais que cet appartement-là, j'allais le louer avec la place de parking à peu près 620 euros par mois.
Ah
Donc
ouais.
620 euros par mois, c'est-à-dire que derrière, c'était un remboursement de 350 sur 20 ans. Moi, je prends sur 20 ans. Donc ça veut
Ouais.
dire que globalement, j'avais 300 euros pour payer la taxe foncière, les charges de copropriété, et il me restait, on va dire, 50 à 60 euros de cash flow vraiment net dans ma poche. Voilà. Donc ça, et la même année, je vais à un enterrement. Malheureusement, celui de mon oncle, je vais chercher ma mère et elle me dit au rez-de-chaussée, il y a un appartement, un agent immobilier qui fait visiter un appartement. Est-ce que tu serais intéressé? Je gare ma voiture, je le visite et je fais une offre au prix. Et globalement, c'était hyper centre-ville de Rouen, un 21 mètres carrés avec une place de parking. Pas mal de travaux à faire, de rafraîchissement, péter une cloison pour agrandir la pièce, etc. Parce que c'était une petite surface, alors que c'était une petite surface et il y avait une cuisine indépendante. Donc je me suis dit, je casse pour ouvrir et pour créer de l'espace. Et pourquoi j'ai acheté au prix? Tout simplement parce que je me suis dit, la place de parking, elle vaut 20 000 euros.
À Rouen, c'est
Ouais.
ça, le centre-ville. Ok.
À l'époque, c'était entre 18 et 20 000 euros. Donc je me suis dit, c'est à 65 000, on enlève la place de parking, donc ça veut dire que j'achète un studio de 21 mètres carrés qui est pas mal, pour 45 000 euros en plein centre-ville de Rouen, sachant que le prix était, enfin le prix moyen d'un studio de ce genre-là, c'était 65 à 70 000 euros. Je me suis dit, banco, je veux l'avoir, donc voilà, j'ai acheté. Donc tu vois, ça s'est fait vraiment progressivement, mais il y a eu quand même un déclic, je te dis, en 2016. Donc je me suis dit, allez, j'enchaîne. Aujourd'hui, voilà, j'ai une vingaine de locataires, hein. Alors entre-temps, j'ai aussi acheté des places de parking. Je suis assez place de parking, j'aime bien les places de parking. Donc voilà, j'ai quelques biens. Voilà, je sais pas si on en parlera tout à l'heure ou si tu veux que j'en parle maintenant.
Ben on peut en parler si soit
Ouais.
ouais nombre de locataires ou alors si tu as des chiffres
Bah.
ou des choses comme ça à nous partager
On en parlait, mais
enfin
c'est
ce que
vrai
tu
que
veux.
généralement on me dit bah tu sais pas combien d'appartements t'as? Bah non, moi je ne sais pas combien d'appartements ou autres j'ai, parce que l'important en tant qu'investisseur, c'est pas le nombre de biens qu'on a qui est important, c'est le chiffre d'affaires qu'on génère. Donc que j'ai 5 biens qui me génèrent 70 000 euros ou 10 biens qui me génèrent 70 000 euros, l'important c'est les 70 000 euros, c'est pas le nombre de biens. Donc moi j'ai voilà donc moi j'ai F3, j'ai deux F3, j'ai un F2, trois studios, j'ai six places de parking, j'ai des caves que je loue, hein, alors c'est des caves saines que je loue en tant qu'archive, j'ai des chambres et puis j'ai acheté des murs commerciaux avec un associé. Et aujourd'hui, j'ai des projets notamment pour acheter des bureaux et pourquoi pas faire des colocations aussi. Donc voilà, et donc ça, cet ensemble de biens que j'ai actuellement, ça représente à peu près 75 000 euros de loyer, mais que j'ai fait au final assez rapidement.
Annuel?
Ouais, annuel. Ouais, annuel. Donc ça fait 6 000, 6 500 euros par mois. Alors c'est à la fois pas beaucoup et beaucoup entre guillemets, mais voilà, c'est qu'un début, hein. Ça fait 5 ans que j'investis vraiment dans l'immobilier, 5 6 ans que j'investis vraiment dans l'immobilier. L'important, c'est vraiment la relation avec le banquier qui est importante.
Tu regardes les sites d'annonces en continu, est-ce que tu as des relations éventuellement avec des agents
Ouais.
immobiliers? C'est comme ça que tu
Bah
trouves tes
c'est
affaires?
en fait, Moi, je passe souvent par des agents immobiliers parce que quand on va directement avec des particuliers, ils n'ont pas obligatoirement le sens du marché. Et parfois, ils surévaluent. Donc, autant passer par des agents immobiliers qui ont déjà fait ce travail-là de travailler, entre guillemets, le vendeur. Et puis, ça permet aussi d'avoir plus, comment dire, de possibilités de négocier, entre guillemets. Parce qu'il y a une, il y a un interlocuteur qui connaît très bien la situation du vendeur et qui peut dire oui ça passe, oui ça passe pas, ou bon bah même si potentiellement ça passe pas, je le dis quand même, on tente, parce que la personne est dans une situation particulière, même si l'agent immobilier ne me le dit pas hein, obligatoirement, puisque c'est un peu personnel, mais au moins c'est un intermédiaire qui permet de dire les choses beaucoup plus cash.
Ouais, c'est intéressant, c'est ton allié pour négocier en fait,
Ouais.
c'est ça.
Ah bah moi c'est vraiment un partenaire. Parfois je négocie, parfois je négocie pas. Faut en fait, ce qui est compliqué, ce que je dis souvent, hein, le métier d'investisseur, c'est pas acheter, c'est de bien acheter et de trouver des biens immobiliers. Donc trouver un bien immobilier qui corresponde à tes critères et qui soit pas trop cher par rapport au marché. Ça, c'est important. Et quand c'est trop cher, avoir des méthodes qui permettent en fait de négocier. Mais souvent, moi, les biens que j'achète, c'est parce que la déco est pas bonne. Tout simplement, c'est que ça n'a pas été entretenu.
Ouais, et même, enfin, on a parlé hein, des travaux que tu fais, mais refaire des sols, refaire les peintures en soi, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Visuellement, c'est ce qui peut faire fuir certains acheteurs ou investisseurs, donc le bien peut ne pas se vendre ou être un peu paraître cher. Mais pour un investisseur qui sait que il peut acheter du stratifié à 13 € le mètre carré et ça fait vraiment un effet nickel, c'est qualitatif. C'est sûr que sur des voilà, ça peut permettre pour vraiment 1000 à 5 000 € de refaire l'appartement et tu l'as chopé ben 10 15 000 € moins cher que ce qu'il
Ah bah
valait.
oui, non mais
Donc
c'est clair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, quand on me dit ah, faut faire attention parce que il y a des murs noirs ou je dis non mais c'est bien au contraire. Je veux visiter parce que c'est là où tu sais que tu peux négocier parce que les gens ont peur. En fait, ils ont peur de la décoration. C'est quand même surprenant. Alors que, alors moi, c'est vrai que j'ai une équipe, hein, enfin entre guillemets, donc j'ai des personnes de confiance qui me prennent pas cher.
Pour les travaux, tu veux
Ouais,
dire?
pour les travaux. Donc je sais tout de suite quand je visite un bien combien au mètre carré je vais mettre. Et souvent, moi, c'est pas énorme. Ça va être du 200 € du mètre carré. Et encore. Hein, et encore, parce que comme tu disais, un stratifié à 13 €, 13 € du mètre carré, si tu as 60 mètres carrés, bon, bah, tu en as pour 1 000 € et ton sol est refait. Alors après, tu as la main-d'œuvre. Mais mettre du stratifié, c'est pas ça qui va prendre énormément de temps. Donc en gros,
Ouais,
pour
vraiment.
2 000 € tu as déjà un sol qui est refait. La peinture, c'est pareil. Quand tu as des personnes, t'achètes, comment dire, des pots de peinture toi-même et tu rémunère uniquement la personne pour qu'il peigne, ça peut aller aussi très très vite. Une fois qu'on a déjà les sols, le plafond et les murs de refait, bah déjà ça a une autre allure le bien immobilier et c'est là où il y a un coup de cœur parce que les gens ont l'impression que c'est tout neuf, ce qui est la
Ça
vérité, hein.
transforme.
Et souvent moi je refais la cuisine parce que ça fait un côté un peu waouh. Et je vais à Brico Dépôt hein, chercher la cuisine et généralement j'en ai pour 1 000 ou 1 200 €.
Est-ce que tu peux nous parler du marché un peu de Rouen,
Ouais.
l'immobilier à Rouen? Est-ce que tu estimerais que tu as été, on va dire, un peu chanceux d'être dans ce genre de marché? Je te donne juste un exemple, mais des T2, des studios, 60 000 euros, 50 000 euros à Annecy, là où je suis, c'est impossible. Hein, le premier studio que j'ai pu acheter, c'est 180 000 euros. Un studio de 30 mètres carrés. Après, les loyers sont pas toujours proportionnels, mais ça peut être proportionnel. Est-ce que tu estimerais qu'il y a une grande importance au secteur dans lequel tu investis et donc que Rouen serait un bon marché, un marché porteur?
Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est plus ou moins chanceux en fonction du territoire. Clairement, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, je me dis, ceux qui peuvent acheter à 2 000 euros, c'est super. Rouen a explosé ces 3-4 dernières années. Ce que j'achetais 2000 à 2500 € du mètre carré, aujourd'hui c'est 4000. Donc je peux plus investir. Je peux plus investir en centre-ville de Rouen. C'est pour ça que je m'excentre un petit peu parce que globalement, l'objectif c'est d'avoir du 1500, 2000 € du mètre carré. Moi j'ai eu beaucoup de chance d'investir avant l'augmentation énorme des prix. Là, en l'espace de 1 an et demi sur Rouen, ça a pris 40 à 50%. C'est un truc de dingue. Sauf que là, ok, les prix augmentent de 50%, mais les loyers, ils augmentent pas de 50%. Donc ça veut dire que la rentabilité se dégrade. C'est comme quand tu investis sur Paris, bon bah c'est 10 000 € du mètre carré, mais
Pareil.
globalement la renta c'est du 3%. T'es pas un investisseur, c'est un placement. Tu te dis voilà, plutôt que de mettre ça sur des comptes, je place de l'argent parce que tu es sûr d'avoir un locataire, mais par contre ta renta, elle est pas bonne. Moi aujourd'hui j'essaye de voir ailleurs, toujours à proximité, hein, je vais pas à plus d'1 heure de chez moi. J'essaye de trouver des zones qui permettent d'avoir des rentabilités qui sont au minimum de 8-9% brut, parce que c'est ça qui permet d'autofinancer les biens. Alors t'as pas de cash flow positif, mais tu mets pas d'argent de ta poche. Mais faut aussi savoir acheter, faut savoir négocier. Hein. C'est des éléments importants. Maintenant, Annecy, quand tu me dis un studio à 180 000, même si tu sais négocier, tu l'auras pas à 70 000 €. Hein, ça c'est clair. Donc après, faut voir aux alentours. C'est-à-dire que faut prospecter. Pas trop loin de chez soi malgré tout, c'est ça qui est compliqué, mais identifier des zones à potentiel où il y a une demande, parce que ça c'est important, hein. Faut pas acheter, enfin moi je suis pas trop acheté en plein milieu d'une campagne où il n'y a pas de demande, mais faut qu'il y ait une proximité de ville, faut qu'il y ait des infrastructures et voir s'il y a une vraie demande. Et aujourd'hui, clairement, moi donc je suis à Rouen, l'agglomération rouennaise est grande, donc je regarde les villes de l'agglomération. Pour voir un petit peu, parce que Rouen Hypercentre, c'est 4 000 €, mais Déville-lès-Rouen, qui est à 10 minutes, ça va être 1 500 €, tu vois. Sauf qu'on est vraiment à proximité. Donc je me dis, il y a des opportunités à ce niveau-là, puis après, un petit peu plus loin à chaque fois.
Ouais, si le prix augmente, ben tu regardes un
Ouais.
peu plus loin et tu te dis que par ricochet, finalement, ça va se propager et ça
Bah
va
oui.
éventuellement
Ce qui est important
toucher.
quand on est investisseur, c'est se dire, est-ce que le bien que je vais acheter, je vais le louer? Est-ce qu'il y a une vraie demande? Et deuxièmement, est-ce que le loyer que je vais recevoir va me permettre de rembourser l'emprunt et toutes les charges à côté? C'est-à-dire que si tu loues un bien 1 000 €, il faut en face que ton remboursement ne dépasse pas 700 €. C'est souvent la loi des 70% que je dis, qui est utilisée aussi par les banques hein, généralement, parce que la différence entre le 70 et le 100, hein, ces 30% te permettent de payer la taxe foncière, les assurances, les vacances locatives, les problèmes de remplacement de chaudière ou autres. Et au final, je vois parfois certaines personnes qui disent, ah bah oui, moi, j'ai une location à 1 000 € et je rembourse que 800. Et j'ai un cash flow de 200. Non, ton cash flow, il n'est pas de 200. Il est de moins 100 parce que tu as toutes les charges annexes. Et le cash flow positif, c'est au-delà d'une renta de 9% globalement. Et c'est pour ça que c'est très compliqué quand même d'avoir des rentabilités quand on fait... De l'investissement pas courte durée, d'avoir un cash flow positif. C'est très compliqué, je trouve.
C'est vrai, et tu regardes pas, toi, ça t'intéresse pas la location, on va dire, courte
Courte
durée, quel
durée?
type de location tu regardes, toi, plus du meublé étudiant ou Airbnb, ça t'attire
Alors
pas?
moi, ce que je fais, c'est du meublé étudiant. Je fais du nu. Et de façon occasionnelle, je fais de la courte durée, notamment quand c'est des phases de transition. Par exemple, quand un étudiant part en juin, bah juillet, août, je fais du Airbnb quoi ou du Booking. Parce que je sais que ça va être compliqué pour trouver un locataire. Et puis, en plus, je peux louer assez facilement l'été parce qu'il y a du tourisme, etc. Et ça me permet de réduire les pertes, voire même gagner un petit peu plus. Je trouve que moi, j'ai testé pendant 6 mois sur un appartement du Airbnb. C'est hyper rentable parce que c'est simple. Aujourd'hui, cet appartement, je le loue en meublé, je le loue 630 euros. En Airbnb, ça me rapportait 1400.
Exactement.
Tu vois, donc c'est hyper rentable. Par contre, le problème de l'appartement qui était en Airbnb, c'est que je pouvais pas automatiser les entrées et les sorties. Donc, quand on veut faire de la courte durée, eh bien, faut voir si l'immeuble est adapté en fait à la courte durée. C'est-à-dire la possibilité s'il y a un digicode ou non. Parce que on n'a pas le droit à la base de mettre des boîtes à clés directement sur la porte d'entrée. Ça, c'est pas possible. Ou alors, faut demander l'autorisation du syndic de copropriété qui te dira non.
Ou dans les rues, hein, maintenant j'en vois des fois, il y a des boîtes à clés dans les trucs pour mettre les
Bah
vélos,
oui.
les
Alors,
intuvas,
soit l'immeuble appartient au mec,
les gens.
soit il a fait ça, mais il n'a pas le droit, quoi. Donc moi, je suis assez réglementation, parce que sinon, après, c'est que des problèmes. Donc, déjà, premier problème, moi, j'arrivais pas à automatiser.
Ouais.
Et puis, à un moment donné, derrière, l'automatisation, la conciergerie, ça représente quand même du 20-25% des loyers, hein. Donc, faut vraiment louer régulièrement et être bien positionné pour pouvoir louer 25 nuits le mois et pour que ça soit vraiment très rentable. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté. C'était beaucoup de travail. Maintenant, je dis pas que je le referai pas, hein, même s'il y a des lois qui sont pas hyper en faveur actuellement pour le Airbnb, mais enfin le Airbnb, la courte durée. Mais voilà, donc moi aujourd'hui je fais du meublé pour étudiants, je fais studio, chambre, et puis de plus en plus, comme il y a beaucoup de turnover, j'achète des biens beaucoup plus grands, plutôt des grands F2 ou des F3. Là, tu vois, j'ai vendu un petit F2 meublé pour acheter un F3. Et donc du coup, je passe d'un meublé à un nu que j'ai acheté dans le cadre d'une SCI soumise à l'IS. Parce que l'optimisation fiscale, c'est essentiel, sinon on ne peut pas multiplier les biens. Si on ne pense pas à l'optimisation fiscale, c'est pas possible. Donc on peut acheter un bien, on peut acheter deux biens, mais on ne peut pas acheter 4, 5, 6 biens si on ne pense pas à optimisation fiscale.
On va parler de ça du coup parce que la plupart des gens, investisseurs, personnes qui se mettent à acheter un ou deux biens pour louer, ils sont bloqués au bout de deux biens, au bout de trois biens, soit par le taux d'endettement, soit parce que, ils n'ont pas forcément trouvé les bonnes affaires comme tu en as parlé au niveau du rendement. Qu'est-ce que tu conseillerais pour pouvoir multiplier comme ça et en avoir 10 ou 15 et à la fois niveau fiscal comme tu en as parlé et au niveau du bien et même au niveau du banquier parce qu'il y a des banquiers qui au bout d'un moment te disent ah ben non le volume de crédit est trop grand
Ouais.
ou tu vois ce que je veux dire.
Ouais. Alors, comment multiplier ces biens? Déjà, il y a la notion de rentabilité, c'est essentiel. Déjà, d'une part. Premier élément, rentabilité, c'est-à-dire que si on ne respecte pas la loi des 70%, c'est-à-dire que le montant du remboursement corresponde à 70% du loyer, déjà, ça, on pourra acheter un bien, on pourra acheter deux biens, mais après, ça sera fini parce que le banquier, il dira: ah bah désolé, mais la
Les
pression est
taux.
trop importante. Il n'y a pas un équilibre entre vos rentrées et les sorties et les remboursements. Donc moi, comment j'ai pu multiplier les biens? C'est aussi parce que il y a cette règle des 70% qui était essentielle. Et quand je voyais un bien qui était intéressant, mais qui correspondait pas à cette règle-là, bah je mettais de l'argent de ma poche, hein, tout simplement, pour
J'allais te
toujours.
demander, ouais.
Voilà. Moi, là, le dernier bien, le F3 que j'ai acheté, clairement, c'était pas obligatoirement une affaire, mais je voulais diversifier mon patrimoine.
Oui.
Bah, la plus-value que j'ai faite sur l'appartement que j'ai vendu, bah, j'en ai mis une partie dans l'acquisition de cet appartement pour être dans ces 70%-là,
OK.
obligatoirement. Donc, premier élément, c'est la rentabilité et l'application de la loi des 70%. Ça, c'est le premier élément. Mais avant même d'acheter, en fait, avant même d'acheter, faut penser à la fiscalité. Parce que si on achète que des appartements nus en direct, certes, on fait des travaux au début, donc ça c'est cool parce qu'on a du déficit foncier, puis au bout de 4 ans, le déficit, il n'y en a plus. Et là, on se fait matraquer, pour ne pas dire autre chose, par les impôts. Parce que, en gros, le remboursement du capital qu'on fait est imposé, entre guillemets. Donc, quand on a deux apparts qu'on rembourse du capital de 300 à 400 euros pour chaque appart, bah, c'est intégré aux revenus, aux bénéfices qu'on a fait. Donc, 800 fois 12, ça fait 10 000 euros de plus sur la feuille d'impôt. Bon, bah, ça fait 3 000 euros d'impôt, hein. Enfin, quand on est à la tranche marginale de 30%. Donc ça, j'ai très vite compris que le côté fiscal était important. Oui. Et c'est pour ça que moi, je joue en fait, pour optimiser fiscalement, je joue entre deux possibilités. La première possibilité, c'est le meublé. Donc le meublé qui permet, quand on est au réel, alors là, je parle un peu technique, hein, mais quand on est au réel, d'amortir le bien et donc de créer une charge, entre guillemets, fictive, qui permet de réduire les bénéfices, entre guillemets, de la location. Et donc, globalement, quand on fait du meublé, au moins pendant 15 ans, on paye pas trop d'impôts sur les revenus fonciers. Et puis de l'autre, quand j'achète du nu, là, le F3 que j'ai acheté et que je loue en nu, eh bien, je le mets dans une SCI soumise à l'IS, où là, il y a de l'amortissement et rebelote, c'est une charge fictive. Ouais. Et il n'y a pas de problème. Maintenant, SCI soumise à l'IS, certes, il y a de l'amortissement, on paye pas d'impôts, mais quand on revend, il y aura une plus-value qui sera assez salée. Et c'est pour ça que faut avoir une vision de ce qu'on veut de son patrimoine. Moi, dans la SCI, je sais que je vais pas revendre les biens parce que sinon, je me fais matraquer sur un plan fiscal. Je sais pas si j'ai été clair. Ça va?
Très clair. Je vais juste, pour éventuellement ceux qui nous écoutent, qui comprennent pas forcément ce que ça veut dire meublé nu parce que je l'ai pas expliqué, c'est deux types de location. Quand on achète un bien, on choisit quel type de location on va utiliser, et soit on peut louer son logement nu, c'est-à-dire qu'on achète l'appartement, on le loue vide, c'est un bail qui dure 3 ans, on va dire qui est très arrangeant pour le locataire, c'est dur de faire partir le locataire, et niveau fiscal, les loyers qu'on va percevoir de cette location nue sont plus imposés. On peut aussi choisir la location meublée, donc là on achète le même appartement, par contre on va le meubler, on va mettre un canapé, une table, de quoi manger, un lit, il y a une liste de ce qu'il faut mettre comme meuble
qui est
réglementé. Et là par contre, on va avoir un plus fort abattement sur les revenus et ça va être un peu plus avantageux pour le propriétaire. On peut notamment donner des congés plus facilement et ce que tu parlais à niveau fiscal, c'est un peu plus arrangeant quand on perçoit des loyers. Donc c'est les deux, juste les deux choses que je voulais expliquer. Les gens connaissent sûrement, mais il y en a peut-être qui connaissaient pas.
Ouais. Et donc pour revenir à la question, la multiplication des biens immobiliers, c'est le respect en fait de ces deux règles-là. Plus une troisième règle qui est bien évidemment d'acheter des biens qui se louent, quoi. C'est-à-dire que j'achète pas des biens où potentiellement je vais avoir des difficultés à louer. C'est pour ça que moi, j'incite les personnes à acheter dans des environnements qu'ils connaissent, parce que la seule grosse erreur que j'ai faite en tant qu'investisseur, c'est une fois, c'était ma première acquisition avec ma mère à l'époque, j'étais jeune, hein, j'avais peut-être 25 ans, c'était acheter un appartement à 1000 km dans une station thermale. Ouais. C'est-à-dire on connaît pas le territoire, on achète un bien et on sait pas trop si ça va se louer, et en plus on peut pas gérer le bien ou faire attention ou mettre une pression à l'agent immobilier qui gère le bien. Donc là, c'est simple, j'ai perdu 7 ou 8 000 euros à la revente. Et puis ça me rapportait 2% de rentabilité par an, quoi. Quand on investit, c'est de l'argent, c'est des montants qui sont importants, faut pas investir n'importe comment, c'est pour ça que j'incite à chaque fois les personnes à se former. Il y a des très bonnes formations gratuites qui sont disponibles. Faut se former, faut s'intéresser, faut prendre le temps. Et une fois qu'on a pris le temps d'apprendre, c'est là où il faut aller vite. C'est là où j'ai pu aller vite. Moi, ça m'a mis peut-être 5 ans avant de dire oui, je me sens prêt pour investir et de booster. Mais une fois que je me suis senti prêt, tous les ans, j'achetais entre 2 et 3 biens, quoi.
Comment tu te positionnes par rapport à l'apport? Parce que si on veut multiplier les acquisitions, alors peut-être que à une époque où toi, tu arrives à faire du 110%, c'est-à-dire ne pas mettre d'apport. Mais enfin, pour moi, il faut quand même avoir une petite base à chaque fois qu'on achète un bien. Frais de notaire, si on a un peu plus, c'est mieux. Et en plus, depuis début d'année, avec les banques depuis 2022, elles veulent de l'apport à chaque fois qu'on achète. Enfin bref, il y a aussi cette phase-là. Comment toi, tu gères? Est-ce que tu mets quoi, 30% d'apport? Est-ce que tu as un ratio ou est-ce que tu fais que du crédit?
Alors moi j'avais un principe. Alors déjà quand on commence dans l'investissement immobilier, il faut un apport. Parce que le banquier il veut être assuré, il veut te connaître, il veut voir quel investisseur tu es. Donc moi sur les deux premiers ou sur les trois premiers biens immobiliers que j'ai achetés en 2016, j'avais apporté au moins les frais de notaire parce que c'était nécessaire pour comment dire pour rassurer le banquier. Après, quand le banquier a vu que globalement je louais assez facilement, que je rénovais les appartements, que je faisais prendre de la valeur à mon patrimoine, j'ai tenté le côté j'apporte pas. Donc ça, il y a eu trois ou quatre biens où j'ai emprunté 110 voire 120% de la somme, c'est-à-dire que j'ai emprunté le prix d'acquisition, les frais de notaire et puis les travaux. Ça, c'était top, parce que
Ouais, c'est
110%,
magnifique.
et je respectais la règle des 70%, donc c'était nickel. Aujourd'hui, je pense que c'est quasiment plus possible. À l'heure actuelle, c'est 10, 15, plutôt 20% qu'on demande. C'est ça qui est compliqué. Donc, alors c'est compliqué, oui et non, parce que, comme je le disais, quand on commence dans l'investissement immobilier, au début, que ça soit aujourd'hui ou que il y a 5 ans, fallait de l'apport. Donc ça pose pas de problème. C'est surtout quand on souhaite multiplier les biens rapidement où là ça pose problème parce que faut toujours apporter. Alors que moi, pendant sur 3 ou 4 biens, j'ai quasiment rien apporté. C'est là où c'est un peu compliqué. Mais voilà. Après, l'apport ça rassure. Et ça rassure le banquier. Et le banquier, c'est la seule personne qui vous prête et qui vous permet de développer votre patrimoine. Donc à un moment donné, moi je fais ce que le banquier me demande. C'est-à-dire que j'ai une relation très honnête avec mon banquier. Alors, tu parlais tout à l'heure de parfois, il y a des plafonds, des limites en fait d'emprunt. Moi, je suis arrivé à cette limite-là sur une banque. Donc j'étais au Crédit Agricole, enfin j'y suis toujours, hein, mais on va dire que la dernière acquisition, c'est pas avec le Crédit Agricole que je l'ai faite. Mais globalement, dès qu'on se rapproche de 900 000, 1 million d'euros d'encours,
Exactement.
les banques tiquent un peu. Parce que le risque, en fait, on devient une personne à risque et à risque important. C'est-à-dire que si demain je meurs ou autre, derrière, l'encours est important et les pertes peuvent être importantes pour la banque. Donc dès qu'on arrive autour des 850, 900 000 euros d'encours, ce qui est déjà énorme, hein, mais les banques commencent à tiquer un peu. Et moi, ça a été le cas. Par exemple, la dernière acquisition que j'ai faite, alors que j'ai des liquidités, qui me connaissent depuis 15 ans maintenant, ils m'ont dit, bon, bah voilà, par rapport à votre encours, nous, bah là, on vous suit plus. Alors ça fait un truc hein, quand même, à titre personnel, attendez, vous m'avez suivi pendant 10 ans et là vous me dites que vous avez plus confiance en moi. On le prend pour soi. Faut pas le prendre pour soi, c'est des indicateurs, c'est des warnings qu'ils ont. Ah bah Dimitri Laroutis, de vert, il est passé à rouge parce que bah il est passé de 700 000 à 850 000 euros avec sa dernière acquisition, donc maintenant on prête plus. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis allé voir une autre banque. Et j'ai échangé avec la banque. Moi, j'aime beaucoup échanger pour identifier en fait ce qu'ils souhaitent. Qu'est-ce qu'ils souhaitent comme client? Et donc j'ai échangé beaucoup, beaucoup. Je lui ai dit, bon, bah, on est dans un rapport gagnant-gagnant. Donc, pour pas citer, c'est le Crédit Mutuel. Je suis allé voir le Crédit Mutuel. Et je lui ai dit, bon, bah, voilà mon projet, voilà mon patrimoine. Donc ils ont analysé mon patrimoine. Ils ont mis 5 ou 6 heures à deux à tout analyser. Et puis, ils m'ont fait confiance. Mais au lieu de mettre 2 semaines avant avec le Crédit Agricole pour obtenir le prêt, bah là, pour ce prêt-là, j'ai mis 2 mois et demi, quoi. Et puis moi, comme c'était du gagnant-gagnant, je lui ai dit, bah, c'est simple, hein, les assurances, je les prends chez vous. Je vais
Ouais.
prendre une assurance vie où je vais mettre 20 000 euros, et puis je vais prendre un compte titre où je vais mettre 10 000 euros. C'est du gagnant-gagnant, c'est pas grave. Parce que moi, l'important, c'est qu'on réalise les projets que j'ai. On est entrepreneur. Quand on est investisseur, on est entrepreneur. Il faut accepter, en fait, d'une part, les risques et puis les petits problèmes. Faut pas se dire, bon, bah, j'investis dans l'immobilier et tout roule. Non, ça n'existe pas. Et ceux qui vendent ça sont des menteurs. L'immobilier, c'est de l'humain. On gère de l'humain, on gère de l'habitation d'humain, on gère, quand c'est des locaux d'activité, des activités, mais derrière il y a des humains, bah, obligatoirement il y a des problèmes. Maintenant, moi je délègue. Je délègue, j'ai des agences.
La gestion.
Ah ouais, la gestion, je délègue parce que je travaille, j'habite à Rouen, je travaille à Amiens qui est à 1h30. Quand on a quelques biens. Ah bah monsieur, le chauffage ne fonctionne plus. Ah bah il y a une fuite. Ah bah je sais pas moi. Enfin il y a plus d'électricité. Comment on fait? Bon bah ok. Moi je peux pas être là dans l'heure. Donc je délègue. Alors ça doit me coûter 7 ou 8%. Mais déjà c'est défiscalisable hein, entre guillemets puisque c'est une charge donc ça réduit les bénéfices. Et puis 7 ou 8% de 500 euros c'est 40 euros par mois quoi.
Ouais,
Donc
pour la
c'est rien
tranquillité.
par rapport à la sérénité, c'est le coût de la sérénité. Bah 40 euros, moi je suis prêt à donner. Et ça c'est intégré dans les 30% qui permettent d'être à l'équilibre. Donc voilà. Donc non, moi je suis sur de la gestion et pareil. À chaque problème, j'essaye de trouver une solution. Souvent on parle de risque d'impayé. Bah moi je prends une garantie loyer impayé. Ça me coûte 2%. Mais au moins, je sais que s'ils me payent pas, bah, pendant 2 ou 3 ans, j'aurai quand même les loyers et puis il y a les procédures qui sont prises en charge par l'assurance.
Quand tu vois, tu m'as dit Rouen plus 45%, on va dire augmentation
Ouais.
du prix, la valeur de ton patrimoine, des appartements que tu as pu acheter pas cher entre guillemets. Quand tu vois une telle augmentation, est-ce que ça te pousse à avoir envie de revendre, comme tu as pu le faire avec ton F2? Ou est-ce que tu es vraiment sur du long terme? Est-ce que tu te dis bah je paierai trop d'impôts sur la plus-value comme c'est des locations? Est-ce que tu as cette idée-là ou non? Toi tu gardes vraiment sur du long terme?
Ouais, moi, c'est me générer des revenus passifs. Ça a toujours été mon objectif. C'est moi, acquérir pour acquérir, c'est pas mon truc. Ou faire de l'argent en soi, c'est pas obligatoirement ce que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est la liberté financière. Je trouve que le plus grand des luxes, c'est d'avoir le choix de faire ce qu'on veut. Et pour ça, il me faut bien évidemment une rentrée d'argent. Et j'ai trouvé que l'immobilier permettait relativement facilement, d'accord, relativement facilement, de pouvoir avoir des revenus récurrents assez sûrs et au final avec une rentabilité de dingue. Parce que enfin, t'achètes un appartement 100 000 euros, tu te crées un patrimoine de malade en très peu de temps. Que t'achètes un appartement 100 000, on va dire que t'as apporté 10 000 de ta poche, d'accord, t'as 10 000 euros de ta poche. Tu le loues. Normalement, si tu as bien fait ton taf, tu loues cet appartement, comme je le disais, 9 000 euros, puisque faut avoir la règle des 9% en tête. 9 000 euros, tu as les intérêts, enfin, tu as plein de trucs à côté. On va dire que tu rembourses du capital à hauteur de, allez, 5 à 6 000 euros par an. Tu as apporté 10 000 et chaque année, ces 10 000 te rapportent 5 à 6 000 euros par an. En capital, en patrimoine. C'est-à-dire que c'est un rendement par rapport au capital que tu as mis toi de 60%
Exactement.
sur du sûr. Donc quand on me parle de crypto que j'ai initié, etc., ou autre, où tu as des variations de plus 50 à moins 50% à l'espace d'une semaine, entre oui, tu peux faire éventuellement 100% dans l'année ou 200 ou 300 ou 400%. Mais rien n'est sûr. Et de l'autre côté, dans l'immobilier, où tu es sûr à 90% de faire du 60% l'an, bah je me dis que l'immobilier, c'est pas si pas rentable que ça, quoi. Quand même, hein. C'est 60%, faut pas l'oublier.
C'est vraiment ce que je trouve magique avec l'immobilier. 10 000 euros, tu peux acheter 100 000 euros de valeur
Ah
immobilière,
ouais.
10 000 euros de Bitcoin ou de crypto. t'as 10 000 euros de Bitcoin crypto.
Bah,
donc,
alors t'as,
ouais,
t'as
y a
10
pas
000
ce...
euros aujourd'hui, mais t'en as peut-être que 5 000 demain. Ou
Voilà,
alors
ou
100 000.
alors, exactement, ouais, exactement. Mais c'est ce qui est vraiment magique avec l'immobilier, en tout
Ah oui.
cas, je trouve.
L'immobilier, c'est une stratégie de moyen terme, long terme. C'est-à-dire que plus t'achètes, plus ton capital va augmenter. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, moi aujourd'hui, comme je le disais, j'ai à peu près 70, 75 000 euros de loyer. Bon, bah, sur ces 75 000 euros, je rembourse chaque année 40 à 45 000 euros d'emprunt. Ça veut dire que mon patrimoine augmente de 45 000 euros l'année en travaillant. Moi, j'ai calculé, hein, globalement, sur une année moyenne, je travaille, allez, 40 à 50 heures l'année dédiée à ça uniquement.
Ouais.
Bon, bah, c'est pas mal, moi, je trouve. Tu travailles une
C'est
grosse
énorme.
semaine et puis t'as
Ouais.
40 000 euros.
C'est énorme, mais ce qu'on va dire, je veux juste le préciser, parce que les gens, peut-être, ils peuvent entendre 75 000 euros à l'année, tout ça. En fait, c'est des loyers que Dimitri perçoit. Sur ces 75 000 euros, il y a, c'est ce qu'il dit, 40, 50, enfin, peu importe en fonction, d'emprunt. Donc, qui rembourse, c'est pas 75 000 euros qui touchent dans sa poche
Non.
et qui viennent et il peut arrêter de faire le prof maintenant et partir à 6 000 euros par mois. Non, c'est il rembourse la banque,
Ouais.
il paye les charges, il paye les taxes foncières, tous les petits à côté qu'il peut y avoir. Et donc c'est pour ça que c'est pas, je veux juste le préciser parce qu'il y a des gens peut-être qui vont se dire bah il touche 75 000 euros dans sa poche, il pourrait vivre à Dubaï la belle vie.
Ouais.
Non, il doit rembourser encore des crédits, c'est pas dans la
Moi,
poche.
je me suis constitué un patrimoine, mais à travers l'emprunt. Donc, globalement, aujourd'hui, je suis en train de rembourser cet emprunt-là, mais d'augmenter, du coup, mon patrimoine. Mais au final, à
Exactement.
la fin de l'année, on va dire, hein, sur le moyen terme, j'ai zéro dans ma poche, entre guillemets, hein, en liquide.
Oui.
C'est totalement équilibré, j'en mets pas, mais j'en reçois pas. Par contre, mon patrimoine augmente. Et c'est sûr que,
Exactement.
globalement, dans 5 ans, 5 ou 6 ans, là, je pense déjà, en fait, à rembourser par anticipation certains biens immobiliers.
Exactement.
Parce
Alors,
que
Bitcoin
il me
posé.
reste 35, 40 000 euros, je me dis bah tiens, ça peut être pas mal aussi d'avoir du cash flow, de rassurer la banque, etc. pour emprunter encore après. Mais c'est vrai que c'est, moi je pense que l'immobilier, tu peux devenir rentier entre guillemets en 10 ans, en l'espace de 10 ans, parce que c'est ce que j'ai entre guillemets fait, c'est-à-dire que j'ai commencé en 2016-2017 vraiment. Et je pense que dans 4 ou 5 ans, je pourrais dire, bon
Tu
bah
pourras.
voilà, j'ai 3 000 euros par mois qui me
Ouais.
rentrent dans la poche et
Genre,
puis c'est bon quoi.
pour terminer, je vais faire un peu comme tes vidéos TikTok. Les gens à chaque fois te disent, ah bah j'ai telle situation financière, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Et les gens adorent ces vidéos, j'aime bien voir ce genre de vidéos et des fois j'ai pu en faire quelques-unes. Donc je te pose un cas, je te donne une situation, tu me dis ce que tu conseillerais à cette personne, d'accord? J'essaie de faire trois niveaux. Je suis un jeune étudiant en alternance, par exemple. Et j'ai réussi à mettre 3 000 euros de côté. J'aimerais investir. Qu'est-ce que tu conseillerais?
Alors, investir avec 3 000 euros, 3 000 euros, c'est une somme quand on est alternant, mais au final, dans l'investissement, c'est pas grand-chose. Moi, je conseille, en fait, je suis assez sur le côté, je développe mes compétences, mes connaissances dans le domaine. Et je prends le temps en fait de devenir un expert. C'est-à-dire que quand on est jeune, on parle souvent de fougue de la jeunesse et c'est super parce qu'on a énormément d'énergie, mais cette énergie-là doit être dédiée à l'acquisition de connaissances pour pas faire n'importe quoi et pour pas perdre ces 3 000 euros. Que ce soit un investissement dans les cryptos, dans l'immobilier ou autre, parce que l'immobilier, hein, dès 3 000 euros, on peut le faire, hein. Moi, j'ai acheté 2 places de parking, 6 000 euros avec les frais de notaire, donc c'est possible. Mais c'est une somme et faut pas faire n'importe quoi. L'argent, on met du temps à l'acquérir. Donc, moi, je lui dirais, hein, à cet alternant, prends le temps de t'informer, de te former avec des formations gratuites, il y en a beaucoup, de lire également beaucoup sur le sujet. Et une fois que tu auras ton job, une fois que tu auras non pas 3 000, mais peut-être 15 000 euros de côté, bah tu fais comme moi et t'exploses. Et c'est que tu te lances une fois, sachant que tu auras de l'argent de côté, tu auras des connaissances, tu n'auras pas fait un certain nombre d'erreurs, le banquier aura confiance en toi, il te prêtera, et ainsi de suite. commencer à investir à 22 ans ou commencer à investir à 25 ans, il y a que 3 ans d'écart, c'est pas là où ça pose problème.
Oui.
C'est quand moi j'ai commencé à investir à 35 ans ou 36 ans, là j'ai commencé un peu tard. Je me suis comment dire rattrapé, mais j'aurais commencé à ne serait-ce qu'à 30 ans.
Ouais,
aujourd'hui,
dit,
je serais rentier et puis je serais à Dubaï, comme tu dis. Mais
mais
c'est pour ça, quand on est jeune, on a le temps d'apprendre. Par contre, faut pas être inactif. Voilà ce que je dirais.
Exactement, la patience, les gens souvent confondent et ils pensent la patience, c'est attendre, ne rien faire et perdre son temps.
Non.
Alors que la patience, c'est ce que tu fais pendant que tu attends. Tu peux continuer à mettre de l'argent de côté si tu es chez tes parents, grossir cet apport. Je suis tout à fait d'accord avec avec ça, et quand tu arriveras avec 10 000 euros, 15 000 euros, plus un salaire, ben voilà, tu pourras faire des choses beaucoup plus intéressantes.
Beaucoup plus intéressantes
et, en plus,
et beaucoup plus efficaces, parce que tu auras appris,
tu te seras formé.
Tu n'auras pas fait d'erreur. Et donc, en fait, tu vas accélérer entre quelqu'un qui commence parce qu'il a envie tout de suite, qui fait des erreurs, bah t'inquiète pas, hein. Celui qui a commencé à 22 ans, qui a fait des erreurs, bah à 30 ans, il aura peut-être deux biens. Celui qui a commencé à 25 ans, mais qui n'a pas fait d'erreurs, à 30 ans, il en aura 5 ou 6.
Niveau formation, tu as une formation à proposer, toi, il me semble. Non, j'ai vu. Tu veux qu'on en parle?
Alors, ouais, j'ai fait des formations. Mmh. Alors, moi, c'est j'ai une formation gratuite qui est sur les principes de base, qui dure 5 heures. Mmh. Donc, assez complète, en tout cas, sur les principes de base de l'investissement immobilier. Et puis après, j'ai des formations un peu spécifiques. C'est le prix d'un bouquin.
D'accord.
Moi, je veux que ça soit accessible à tous.
Okay.
Donc, si on a envie d'investir dans les places de parking, j'ai une formation à 15 euros.
Okay.
Si on a envie d'investir dans les murs commerciaux, j'ai une formation, je crois, à 20 ou 25 euros.
D'accord.
Et puis, une autre formation sur comment multiplier, justement, ces biens immobiliers. C'est ce qu'on en a parlé tout à l'heure, où il y a les aspects fiscaux, etc., qui doit être aussi autour des 30 euros.
Génial.
Donc voilà, mais accessibilité, et puis à côté, je fais du coaching personnalisé, je réponds aux questions par rapport aux situations.
Et on les retrouve sur quoi, ces formations? Il y a un site, on va sur tes réseaux?
Sur sur TikTok, il y a souvent des liens sur mon site internet, www.go-man.fr, où il y a toutes les formations, il y a des articles de blog, il y a toutes les, puis ceux qui veulent connaître un peu mon parcours, un petit peu plus en profondeur, il y a une description de ce que j'ai fait. Je suis assez transparent et honnête. Je conseille pas sur ce que je connais pas, en tout cas.
Génial. Ok. Bon, bah, si vous avez envie d'en apprendre plus, de vous former, de commencer à vous former, il y a même une formation, gratuite de 5 heures. Allez voir sur goman.fr et puis, vous irez voir ça. On continue. J'ai encore deux cas à te présenter.
Vas-y.
Ça te va? Le cas plus traditionnel, on va dire, la personne, donc, a mis 10 000 euros de côté, signé un CDI, on va dire, 1700 euros net. Comment t'investirais ça, toi? La personne s'est formée, ça y est, il a mis 10 000 euros de côté, il a signé son premier CDI, 1007, 1008, 1006, enfin, peu importe le montant. Mais...
C'est super compliqué actuellement parce que l'environnement juridique a beaucoup changé. Alors, à la fois juridique et puis les contraintes, notamment mises en place par le Haut Conseil de la Stabilité Financière aux banques. Et il y a beaucoup de banques qui demandent aujourd'hui d'être propriétaire de sa résidence principale avant de pouvoir investir.
Ouais.
Et ça, je trouve que c'est terrible pour les investisseurs, en tout cas les jeunes investisseurs, parce que moi aujourd'hui, ça va, j'ai mis la machine en route, donc je vais rembourser, je vais peut-être emprunter, donc ça va.
Ouais.
Mais ceux qui veulent commencer à investir. C'est super chaud. Donc, il y a toujours ces fameux 20% de dérogation au niveau des banques. Donc, moi, je dirais à une personne comme ça, qui a 1700 euros, qui a un peu d'argent de côté, d'échanger beaucoup, beaucoup avec son banquier pour voir ce qui est possible, en fait. Et ce qu'attend le banquier de lui et voir, en fait... moi, je sais que j'ai passé des heures et des heures à parler avec mon banquier pour... comprendre la psychologie du banquier. Encore une fois, on est sur un partenariat. Hein. Le banquier vous fait confiance et vous devez faire confiance au banquier. Donc, à un moment donné, il faut lui donner aussi les billes de comment le banquier va me faire confiance. Donc, moi, ce que je ferais, c'est... alors, souvent, je dis, hein, et ça, je sais que parfois, je suis un peu... je suis un peu décrié par rapport à ça, c'est acheter sa résidence principale, si possible. dans un premier temps, en essayant de d'avoir peut-être un taux d'endettement de
Ouais.
25%, quoi, si c'est possible.
Ouais.
Et puis pourquoi pas après commencer pour sécuriser aussi le banquier à acheter des places de parking, petit investissement immobilier. Moi, encore une fois, j'ai acheté 2 places de parking
C'est
pour
bon.
6 000 euros, hein. Pour 6 000 euros, j'ai 2 places. Et comme ça envoie un signal positif au banquier qui
Oui.
dit, ah bah, il fait pas n'importe quoi. Il apprend une place de parking. C'est un investissement comme un autre, hein, immobilier. Faut trouver la place, faut trouver des locataires. Il y a un compromis, il y a tout ce que tu veux. Et ça commence à te rapporter de l'argent. Et puis, t'achètes une place, 2 places, 3 places, et ainsi de suite. L'objectif, c'est de rassurer le banquier. Donc, voilà. Alors, c'est pas une réponse hyper fun, mais je suis là pour dire ce que je
Vérité,
pense,
oui.
hein. Mais voilà, l'objectif, c'est résidence principale. Commencer un petit peu, petit, à acheter de l'immobilier pour que, bah, 4 ou 5 ans plus tard, ils disent au banquier, j'ai 10 000 euros de côté, aujourd'hui j'en ai 15, j'ai 3, 4 places de parking. Bon, maintenant c'est un studio que j'aimerais acheter et regarder, ça marche quoi.
Troisième et dernier cas de figure, j'ai 100 000 euros. J'ai touché un héritage, ou alors j'ai fait une plus-value sur un bien immobilier que j'avais acheté plus jeune et que j'ai réussi à revendre. J'ai 100 000 euros.
Ouais.
Comment est-ce que tu investirais cette somme?
C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de possibilités.
Oui.
Beaucoup de possibilités et moi j'investis dans ce que je connais. Donc, si c'était moi,
Ouais.
en fait ça dépend de la personne, du profil de la personne qui est en face.
Elle a fait des formations Goman,
Bah non mais moi je suis
elle s'y connaît un
Goman,
peu en immobilier.
je suis expert plus en immobilier. Bon bah les
Ouais.
100 000, je sais que il y aura déjà 50 000 d'apport ou 50 ou 60 000 d'apport pour investir dans un immeuble.
OK.
À 300 000 euros, à peu près. Ne faut pas oublier, donc j'apporte 60 000, 300 000, donc ça me rapporte à peu près 25 000 euros. Je garde 12 000 euros de réserve de liquidité par rapport à ça. Donc 60, on va dire 75, il me reste 25 000. Après, je diversifie. Je teste. Moi, j'aime aussi beaucoup la bourse et je trouve que la bourse, notamment dans le cadre du PEA, c'est vraiment il y a potentiellement des effets de levier très importants, notamment parce qu'il n'y a pas de fiscalité et c'est aussi un revenu passif à travers les dividendes. Donc, je mettrais un peu 15 000 euros dans la bourse. Alors moi, je fais du CAC 40, truc de très sécure. Et puis après, pourquoi pas des cryptos ou autres, mais c'est tellement volatile. Moi, j'ai investi 6 000 euros dans les crypto-monnaies. Je suis monté à 32 000 et puis là, je suis à 6 000, quoi. Non, mais en l'espace de 18 mois.
Ah ouais, c'est impressionnant.
Donc moi, je stack. Ça me rapporte un peu revenu passif, entre guillemets. Mais en fait, ça veut rien dire. Parce que les gains sont tellement potentiellement importants ou tellement potentiellement abyssal en termes de pertes. Moi, j'aime pas trop l'incertitude. Moi, ce que j'aime, c'est construire, développer un patrimoine, diversifier, mais avec un côté sécure. C'est pour ça que j'ai voulu investir dans les cryptos. Mais je vois que faut vraiment suivre hein, les cryptos. Hein.
Ouais, je suis pas encore dedans, mais
Ah non, non,
ouais.
non, c'est rock'n'roll, hein, c'est rock'n'roll. Mais voilà, mais je suis pas un expert. Et puis moi, je suis sur de l'investissement passif. En tout cas, le plus passif possible. Je pense que les crypto-monnaies, faut regarder tous les jours et puis c'est les allers-retours qui sont rémunérateurs. Moi, de l'immobilier, j'achète un bien immobilier, je trouve je le rénove, c'est ça mon métier. Puis après, je fais appel à un gestionnaire et globalement, au-delà de ça, je travaille 40 heures par an et puis basta quoi. C'est pas du quotidien, hein, c'est de temps en temps. Et ça, j'aime
Ok.
bien le côté passif. Je suis plus dans ce côté-là.
Bon, c'est génial. Je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets que je voulais aborder. Je te remercie, Dimitri, d'être venu sur le podcast et pour parler avec nous de ton expérience, de tes conseils. Si vous êtes intéressé pour vous former, investir dans l'immobilier, allez sur le site Goman. Allez voir Dimitri sur TikTok. Il a quasiment 90 000 abonnés, il me semble, si ce n'est plus. Allez le voir, abonnez-vous, posez-lui des questions. Il répond énormément à vos questions. Et je te remercie.
Ben merci à toi, Romain,
Et
pour ton
peut-être ben, une
invitation.
prochaine.
Oui. À très bientôt, j'espère.
Voilà, merci beaucoup. C'était Parlons Immobilier, le podcast qui parle de tous les sujets d'immobilier. On a parlé d'investissement, c'était génial. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.